Santé, économie, culture, politique, environnement. Votre premier contact avec l'actualité. Déterminé, enraciné, ancré. Philippe-Vincent Foisy.
Jeudi 29 septembre, bienvenue à Cube Radio. J'espère que vous allez bien ce matin, que vous allez passer une belle journée. C'est sûr qu'aujourd'hui, la première chose qui frappe ce matin, ce sont les images de ces inondations catastrophiques en Floride. Le bilan de l'ouragan Ian qui continue, pas nécessairement de s'alourdir. Pour le moment, il n'y a pas de mort. On espère qu'il n'y en aura pas plus. On va continuer sur la situation de très près. C'est sûr, par contre, que le travail des forces de l'ordre, des pompiers, des policiers, de la garde nationale au cours des prochaines heures, au cours des prochains jours, va être terrible. Les images de ces villes complètement inondées, que ce soit à Fort Myers, on a des images à Naples là, de pompiers qui aident une femme à sortir de chez elle, sortir des rues. Ils ont de l'eau en dessous des bras. Là. C'est pas de l'eau aux chevilles, là. C'est pas de l'eau aux genoux, c'est pas de l'eau aux hanches, là. En dessous des bras. Donc, c'est montré à quel point cet ouragan-là, qui était de catégorie 4, l'un des 5 plus puissants à avoir touché la Floride aux États-Unis, a amené beaucoup d'eau, d'énormes vagues. Il y a plus de 2 millions de foyers qui sont privés de courant. C'est de regarder ça, de se dire à quel point les dégâts vont être graves, à quel point ça va prendre du temps. Là, on espère que rapidement, ils vont pouvoir retrouver l'électricité. Rapidement, l'eau va pouvoir s'en aller. Rapidement, on va pouvoir ramener de l'essence. On va pouvoir ramener de la nourriture. On va pouvoir avoir de l'eau potable, mais la reconstruction de tout ça va vraiment être énorme. Ça a été vraiment, vraiment totalement un déluge. Il y a plusieurs Québécois qui sont rencontrés, interviewés par le Journal de Montréal. On regarde la situation, on se dit au moins eux étaient quand même protégés, étaient à bonne place, ont acheté de la nourriture. C'est pas la première fois que ça arrive. Il y en a qui disaient, on a mis des panneaux solaires, nous, après Irma en 2017. Cette fois-ci, on ne veut pas avoir de génératrice ou on ne veut pas manquer de courant. Donc, grâce à ces panneaux solaires-là, on est en mesure d'avoir un peu d'électricité au moins pour les prochains jours. Mais je leur souhaite bonne chance. Les photos de monde qui nage. Il y a une photo là, sur les réseaux sociaux d'un homme qui nage à l'intérieur d'un immeuble. Là. C'est vous dire à quel point il y avait de l'eau, puis à quel point c'est violent, puis à quel point quand la nature se déchaîne, c'est comme... Quand j'ai entendu ça, c'est comme un coup de poing. Là. Un coup de pied que la Floride vient de recevoir avec cet ouragan-là. On espère qu'ils vont être en mesure de se relever rapidement. Sinon, autre tentative de meurtre, ça s'est passé hier à Montréal-Nord. Un homme de 22 ans, connu des milieux policiers, qui aurait reçu un projectile au ventre. Là, ce qui est assez fou, c'est que cette fusillade-là était commise à 2h, à 14h, en face d'un parc. Quelques heures après, il y avait des jeunes qui revenaient de l'école, qui passaient en face de ce parc-là, quand les journalistes, du journal notamment, se sont rendus sur place. Et encore une fois, un autre geste de violence. Encore une fois, est-ce que c'est un règlement de compte, une chicane qui a mal tourné? Comment ça se fait qu'il y avait une arme à feu? C'est sur le lendemain que la sortie de la ville de Laval, du service de police de la ville de Laval, qui nous dit, « Hey, nous autres, on a été en mesure de réduire de 50% les décharges d'armes à feu. On est en mesure de prendre des mesures. On est en mesure de faire des choses comme il faut pour essayer au moins de réduire la violence par arme à feu. » Je comprends que la ville de Montréal, c'est beaucoup plus gros. Peut-être plus difficile. Il y a moins de forces de l'ordre. Mais quand même, quand on regarde ça, on entend les citoyens qui disent ça n'a pas de bon sens. Ça nous prendrait une plus grande présence policière, ça prendrait une présence dissuasive sur le terrain en ce moment. Parce que ça dérange ceux et celles qui ont décidé de vivre là. Ça dérange ceux et celles qui vont jouer dans ce parc-là, des familles, des personnes plus âgées. Donc sincèrement, encore une fois, ça nous rappelle que ce sujet-là, pendant la campagne électorale, a été complètement écarté, là. Non, on n'a pas vraiment parlé de violence armée. Ça s'est tiré dessus à Montréal, mais c'est comme si c'était monnaie courante. Et où la ministre de la Sécurité publique? Sont où les oppositions pour ramener ce sujet-là, pour dire que ça n'a pas de bon sens? Tu sais, c'est pas normal qu'on n'ait pas passé au moins 2, 3, 4 journées là-dessus. Dominique Anglade a fait un point de presse, oui, au début de la campagne, mais depuis, on n'a pas parlé. Alors qu'on devrait ramener ce sujet-là, alors qu'on devrait mettre de la pression sur le gouvernement. La ville de Montréal, en ce moment, est un peu le paratonnerre de tout ça, là. Reçoit toute la colère, reçoit toute la frustration. François Legault dit, ville de Montréal, hein, on le sait bien, c'est compliqué. On n'est même pas sûr qu'elle dépense notre argent comme il faut. Et l'administration Plante a une grosse, grosse part de responsabilité dans ce dossier-là, mais à un moment donné, le gouvernement du Québec aussi, là. C'est la métropole du Québec, là. c'est eux qui sont responsables de la sécurité publique. Il va falloir que quelqu'un quelque part se réveille. Mais on préfère parler d'immigration. On préfère écouter les propos du ministre Jean Boulet la semaine dernière sur les 80% des migrants qui parlent pas français, qui vivent à Montréal, qui travaillent pas et qui respectent pas les valeurs québécoises. François Legault préfère dire que augmenter les seuils de 50 000, ce serait suicidaire pour la nation québécoise. Mais en même temps, dans la même phrase, François Legault nous dit aussi qu'en ce moment, accueillir 50 000 immigrants, ça ne stoppe pas le déclin du français. Il dit, ben si on répète la même recette, on va avoir le même gâteau. Mais il garde les seuils au même niveau. Donc, sincèrement, c'est tellement le fouillis dans ce qui est dit qu'il préfère s'en sortir en disant des choses comme suicidaires. Si on augmente les seuils, ça lui permet quoi? De couper court au débat. Alors qu'on pourrait avoir un vrai débat sur les seuils. On pourrait discuter d'intégration. On pourrait discuter de ce qui est vraiment une menace pour le français. Mais on préfère dire non. Vous, si vous êtes contre mes seuils, vous êtes contre la nation québécoise. Vous voulez la mort de la nation québécoise. À un moment donné, ici, on a un gros problème politique, puis au moins, ça a permis à François Legault de passer à autre chose, puisque le matin, au 98.5, il disait, vous savez, c'est pas si dramatique ce qui se passe de la fonderie Horn en Abitibi. Bon, il y a des médecins qui disent que c'est pas sécuritaire, la santé publique nous dit qu'il y a plus de cancers, de maladies pulmonaires, des bébés qui sont plus petits lorsqu'ils naissent, l'espérance de vie est moins grande, mais c'est pas si grave que ça. J'ai hâte de voir comment François Legault va être accueilli aujourd'hui à Rouyn. Lui qui s'en va en Abitibi aujourd'hui. Hâte de voir ce qu'il va dire. Est-ce que c'est vraiment pas si grave? Est-ce qu'il va revenir en arrière? Est-ce qu'on va changer encore une fois de discours? On va le suivre aujourd'hui. On va d'ailleurs suivre Luc Boileau qui va être en point de presse à 11h pour parler de la COVID. Pourquoi qu'il n'y aurait pas de questions là-dessus? En même temps, ça donnerait bien. Sinon, Gabriel Nadeau-Dubois, chef de Québec solidaire, qui est en entrevue dans le journal, qui revient un petit peu ou qui montre que peut-être qu'il pourrait y avoir un peu d'ajustement sur la taxe sur les véhicules les plus polluants. Vous savez, cette surtaxe que Québec solidaire veut imposer aux véhicules les plus polluants, notamment les gros VUS, mais aussi les fourgonnettes pour les familles, mais aussi les pick-up. Là, Gabriel Nadeau-Dubois dit, ouais, mais peut-être qu'on pourrait en discuter lors d'un sommet, puis qu'on pourrait l'ajuster, puis que là, on n'est pas dogmatique, il faut que ça change, peut-être, on va voir. En même temps, on veut la mettre, mais est-ce que ça pourrait être différent? C'est comme si on ouvre une porte à dire, inquiétez-vous pas trop de ce qu'on propose, là, on n'est pas si pire que ça. En même temps, là, ils ont le temps là, d'y penser à cette politique-là. Ils ont le temps de l'évaluer. Ils ont le temps de regarder que ça ne fonctionnait pas nécessairement si on annonçait que tous les véhicules un peu plus polluants, notamment les vannes, qui allaient avoir nécessairement un ressac. Pourquoi on n'a pas commencé, par exemple, juste avec les très, très gros VUS? Après ça, on ajoute les pick-up, sauf pour ceux qui travaillent. Il nous dit, oui, mais ça va être régionalisé. Mais qui va gérer la régionalisation de cette taxe-là? Il y a tellement de choses qui sont pas claires qu'à un moment donné, si on veut montrer qu'on veut changer d'air, arriver avec de nouvelles propositions, il faut être en mesure de bien les expliquer puis de bien défendre nos idées, là. Mais en même temps, ce qu'on voit, c'est que ce qui se passe en ce moment, le statu quo ne fonctionne pas. Parce que le Québec est en retard dans l'électrification des transports, puis on est en train de se faire damer le pion, notamment par la Colombie-Britannique. Les normes québécoises sont pas assez fortes mondialement. Il y a une pénurie de véhicules. Donc, les véhicules sont vendus, là où il y a des cibles très contraignante. Colombie-Britannique, on a mis des cibles très contraignantes pour s'assurer qu'il y ait un volume de véhicules électriques qui soit vendu dans les prochaines années. Et ça fait en sorte que les constructeurs vendent des véhicules électriques en Colombie-Britannique parce que les normes sont contraignantes. C'est ce que Daniel Breton explique au journal, lui qui est PDG de Mobilité électrique Canada. Puis il dit, en plus de ça, on a de la misère à en acheter, mais on a aussi de la misère dans la chaîne d'approvisionnement parce que l'Ontario reçoit le plus d'investissements pour ce qui est des véhicules électriques, puis on dame le pion au Québec là-dessus. Puis en terminant, juste un petit mot sur notre collègue Luc Lavoie, là, qui a annoncé qu'il était atteint du cancer, quitte la joute, quitte le bilan. Il dit, les spécialistes me conseillent de prendre du temps pour me concentrer pour mes efforts contre la maladie. Paul, hier, au bilan, disait, c'est grave, c'est sérieux, mais c'est traitable. Donc, il est pas mort, là. On espère simplement qu'il va être en mesure de prendre le temps qu'il faut pour guérir, du temps pour lui. Il va nous manquer, mais on espère qu'il va être en mesure de revenir en santé.